Notre invité ce matin dans le 8h30, Ludovic Régnier, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpe 1.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Vous êtes suppléant de la candidate du Rassemblement National sur la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, Aurélie Abeille. Aurélie Abeille, une personnalité politique inconnue, méconnue, originaire de Perruy, elle a 32 ans et elle restera méconnue, inconnue, puisque c'est vous qui prenez le micro aujourd'hui. Pourquoi ?
Alors, elle a pas mal d'impératifs ce matin, et notamment au courant de journée également. Elle doit se rendre à Marseille pour le débat face à Christophe Castaner et Léo Valter notamment, qui sont les deux poids lourds de notre circonscription. C'est pourquoi c'est moi qui fais le déplacement ce matin. Voilà.
Vous êtes responsable du Rassemblement National à Montélimar.
Tout à fait.
Dans la Drôme. Et là, on se dit, ça n'est pas une suppléance de territoire. Drôme, Alpes-de-Haute-Provence.
Alors, la raison, elle est assez simple. Je suis donc sur Montélimar et c'est ma déléguée départementale et notre trésorier de la Drôme qui ont été choisis comme candidats. De fait, je n'ai pas eu la priorité et l'honneur de défendre le territoire que je représente. Je respecte parfaitement cette décision. Il faut pas oublier qu'il y a également un switch sur les deux circonscriptions des Alpes-de-Haute-Provence, à savoir Monsieur Christian Gérard, originaire de Manosque, qui est donc sur la circonscription de Digne. Il y a cette inversion également.
Oui, alors c'est pas un petit peu un jeu de poker là, que le Rassemblement National est en train de jouer, ou voire même un jeu d'échecs en plaçant ses pions. Christian Girard, vous l'avez dit, délégué du Rassemblement National, manosquin. On aurait pu penser logiquement qu'il soit présent sur la seconde circonscription, celle de Manosque, et non, il est présent sur la première circonscription, celle de Digne-les-Bains, et Aurélie Abeille sur la seconde. Là, c'est un positionnement qui est uniquement stratégique de la part du Rassemblement National. Explique, on a vu les résultats après les présidentielles sur la première circonscription, c'est tout à fait prenable pour le Rassemblement National, donc y placer un nom connu, c'est une bonne chose. Sur la seconde, La République En Marche est arrivée en tête, et donc on place quelqu'un qui est inconnu.
Ah oui, c'est tout à fait stratégique, comme vous le dites, à juste titre. Et c'est exactement la même chose dans la Drôme. Ma déléguée départementale a pris la circonscription qui était la plus prenable. Voilà, c'est la stratégie du RN pour cette élection.
Et le Rassemblement National prend les électeurs pourquoi ?
Ah bah finalement, écoutez, moi je pense qu'il y a une question de confiance malgré tout. C'est une élection nationale. Alors on se positionne sur les circonscriptions qui sont les plus favorables. Après, je pense que au début, ça a été assez compliqué de se dire qu'on avait la circonscription sur laquelle il y a Léo Valter qui a fait 38,4% quand même en 2017, et Christophe Castaner, malgré tout, dont la cote de popularité a chuté de manière drastique. Je pense que malgré tout, le choix de cette deuxième circonscription, on l'a senti d'abord comme quelque chose d'imposé, comme vous le dites, évidemment, c'est la première impression qu'on a eue. Et puis finalement, on a fait une force et un beau défi pour nous. Moi, je suis pas tout neuf en politique, j'ai été candidat à la mairie de Montélimar déjà, j'étais tête de liste, c'est une ville de 43 000 habitants, je pèse un peu, et je crois que justement, la corrélation de la fraîcheur d'Aurélie Abeille et ma petite expérience à moi, je n'ai jamais été élu, ça va nous permettre d'avancer, et on fait un travail de terrain qui est assez formidable au quotidien. Et justement, je prends ce défi, et nous prenons ce défi à bras-le-corps, et c'est plus intéressant peut-être que d'être dans la première qui semblait plus acquise, où on avait plus de relations. On redémarre pas de zéro, mais on a la chance de pouvoir avancer, et on le fait de manière positive chaque jour.
Le Rassemblement National, dans ce que j'entends dans vos propos aujourd'hui, son adversaire principal sur cette circonscription, la seconde, ce n'est pas vraiment Christophe Castaner, c'est Léo Valter de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique
oui,
et Sociale.
Tout à fait. On le voit au quotidien, ils ont énormément de militants. Il y a un gros travail de collage et d'affichage qui sont faits par les militants NUPES. Et c'est vrai que je pense que Christophe Castaner... on en a assez, voilà. C'est ce qu'on entend dans la région, sur la circo, sur tous les marchés qu'on fait. On était à Saint-Étienne-les-Orgues il y a pas longtemps. On est allé un lundi à Fort-Calquier, donc sur ses terres, puisqu'il a été maire à plusieurs reprises de Fort-Calquier. Il y a un ras-le-bol de Christophe Castaner, il y a un ras-le-bol de La République en Marche qui par un effet de manche a simplement changé de nom sans changer de compte.
Donc le changement, c'est la NUPES, c'est pas le Rassemblement National.
Le changement, c'est évidemment le Rassemblement National.
Pourquoi?
C'est la seule opposition à Emmanuel Macron.
Pas la NUPES. Pas la France Insoumise, pas le Parti Communiste,
le Parti
Socialiste, pourquoi ?
Non, c'est une union fourre-tout qui n'a aucun intérêt d'être à mon goût. Et quoi qu'il advienne, elle va exploser très rapidement. Très rapidement, c'est simplement électoraliste. Voilà, c'est
on peut dire aussi que le switch du Rassemblement National est aussi un jeu électoraliste.
Ah oui, dans un certain sens. Mais nous, on garde nos valeurs. On ne fait pas d'alliance. On n'a pas fait d'alliance ni avec Debout la France ni avec Reconquête. On part seul. Et voilà. Et cette union des gauches, elle va plus leur nuire que leur profiter.
Oui. Alors Reconquête, justement, c'est un peu la guéguerre en ce moment au niveau national, oui, mais même au niveau local entre le Rassemblement national et Reconquête. Oui. C'est quoi les petites différences entre un candidat RN et un candidat Reconquête?
Alors Reconquête est beaucoup plus à droite que nous le sommes. Nous, on est sur une droite radicale. Je pense que Reconquête, c'est nettement plus à droite que nous. Les idées sont beaucoup plus nationalistes.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le Rassemblement National, là, serait modéré aujourd'hui?
Alors, on a des volets, notamment écologiques, qui nous positionnent. Ah, je vais pas dire clairement à gauche, j'en suis pas là, on va pas tenter ce grand écart sémantique, mais bien au contraire, je dirais que tous les sujets de société que nous traitons, le pouvoir d'achat, l'écologie, l'économie, l'agriculture, ça nous rend beaucoup plus centré, au contraire que Reconquête. C'est un parti neuf, je crois qu'il se cherche encore, et en fait pour moi Reconquête c'est un peu le RN d'il y a 20-25 ans. On est sur quelque chose qui a vécu, je pense. Voilà, ils ont une image un peu galvaudée de cette droite qui vraiment doit se renouveler et doit partir sur quelque chose de plus social. On ne peut pas parler qu'à une certaine catégorie de Français, à une certaine catégorie d'électeurs, en se disant que bon, on a notre petit quorum, notre petit cercle, et quand on sera au pouvoir, on verra, on s'adaptera. Non, nous, tout est prêt. Marine Le Pen a très bien cadré sa campagne présidentielle. Il faut le souligner. On a un président de parti qui est très dynamique, très jeune, Jordan Bardella. Et on a déjà des élus. On est sur le terrain depuis des décennies entières. Et finalement, Reconquête n'a pas encore cette assise et cette assurance. Et ça nous positionne fait sur une vraie force de droite.
Vous le disiez, hein, nous, le Rassemblement National, on a quand même un peu plus de fibres vertes que Reconquête. Hier, on a relayé le classement parlementaire TE2RE, jeu de mots de l'association écologiste Agir pour l'environnement. Dans les 10 premiers députés, on retrouve dans le top 10 Delphine Bagary, hein, qui députée et sortante sur la première circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. La République En Marche et députée sortant La République En Marche sont les mauvais élèves, mais en tout cas, dans ce top 10, on ne retrouve pas le Rassemblement National.
Eh bien, ça viendra. C'est l'occasion pour nous de rentrer dans ce classement.
Ah oui, donc c'est pas pour tout de suite, en tout cas, la fibre verte.
Ah bah, au niveau de ce qui a été fait pour l'instant, on peut pas dire non que c'est parfaitement vert, mais il faut nous donner la capacité et la chance de pouvoir exercer le pouvoir. Et...
Interdiction du glyphosate?
Ça, c'est une certitude, oui.
Néonicotinoïdes?
Pareil, même chose.
Alors, 2019, sur la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, très précisément, 17,1% de la population avait un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, contre 14,5% en France métropolitaine. Mmh. Et ce sont en particulier des jeunes de moins de 30 ans qui, quand ils restent sur la seconde circonscription, eh bien, ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Vous leur proposez quoi aujourd'hui ?
Alors, ce qu'il faut proposer aux jeunes, et toujours dans la trame de ce qui a été dit par Marine Le Pen, une exonération d'impôt pour les moins de 30 ans, une exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, et puis...
C'est-à-dire, quand on a moins de 30 ans, on ne paye pas d'impôt?
Tout à fait.
Malgré ses ressources, même si on gagne très bien sa vie?
Tout à fait.
Pourquoi?
C'est une des propositions de Marine Le Pen. Donc,
c'est pas équitable?
Non, ça paraît peu équitable de fait, mais c'est une des mesures phares du programme. Après, il doit y avoir des affinements. Hein, peut-être qu'il y aura.
Non, je suis pas très convaincu quand même.
Ah, puisque c'est une mesure qui a été prédite. Alors peut-être que c'est protéiforme. On verra quelles dispositions seront prises. Mais pour l'instant, oui, évidemment, c'est une mesure qui n'a qu'un seul but. C'est vraiment de redonner du pouvoir d'achat aux moins de 30 ans, quel que soit le revenu, évidemment.
Mais ces impôts, quand même, ils servent à quelque chose. Ils servent à financer. Est-ce que ça doit passer par là, le gain de pouvoir d'achat?
Alors c'est une des possibilités. On a également, puisque vous me permettez de parler de pouvoir d'achat, la baisse de la TVA sur les énergies de 20 à 5,5%. Alors pour cela, il faut faire passer ces biens en première nécessité, puisque avec les normes européennes, on ne peut pas se permettre de le faire. Il faut absolument les passer en biens de première nécessité. Dans le package, on a également les 100 produits essentiels au quotidien. sur laquelle la TVA sera baissée à 0%, TVA neutre. Donc ça, c'est des promesses de campagne de Marine Le Pen qui sont aujourd'hui reportées dans cette campagne législative.
Ouais. Mais toutes ces mesures, en fait, elles s'adressent au plus grand nombre. Je le disais, hein, les impôts pour les, l'exonération des impôts pour les moins de 30 ans, ça s'adresse à tous les moins de 30 ans, y compris ceux qui touchent, ceux qui gagnent bien leur vie. La TVA à 0%, c'est une mesure qu'on appelle égale et non pas équitable. Puisqu'elle concernera tout le monde, que ce soit Elon Musk ou que ce soit la personne qui vit à côté de chez nous et qui a le RSA, ce ne sont pas des mesures qui sont équitables.
C'est des mesures qui tendent à le devenir, puisqu'il y aura aussi, comme je vous le dis, des révisions. Pour l'instant, c'est ce qui est proposé. Et quoi qu'il advienne, l'équité, elle viendra de l'accès à chacun aux chances. Notamment, vous parlez des moins de 30 ans, il faut absolument dynamiser, diversifier les offres de formation sur notre département.
Aller vers quoi, par exemple?
L'agriculture est un des fleurons du département, le tourisme aussi, on a 3600 emplois. À temps complet dans l'agriculture, c'est un quart des surfaces du département qui sont agricoles, c'est 27% très précisément. On a 9000 emplois dans le tourisme, que ce soit l'hébergement, le thermalisme. Il faut absolument créer des filières de formation. Et on a par exemple qu'un seul lycée agricole qui fait juste un niveau bac. Donc je pense qu'il faut dynamiser et proposer beaucoup plus que ce qu'on a. Et puis évidemment, la fuite des jeunes vers les autres départements, puisque nous n'avons pas à l'heure actuelle de pôle universitaire. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous nous battrons évidemment à l'Assemblée nationale.
Il y avait eu cet appel qui avait été lancé par le monde économique dans les Alpes-de-Haute-Provence et qui disait aujourd'hui, attention, les collectivités, vous taxez trop les entreprises.
Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est beaucoup trop taxé, évidemment.
Et qui doit agir ? Hormis l'État, qui doit agir? Comment on peut inciter les collectivités à baisser un peu les impôts?
Il faut que le département joue son rôle, évidemment. Je pense qu'il y a une grande part de ces taxes qui sont à mettre au discrédit du département, même si Violaine Desmarais fait son maximum, évidemment.
Donc la préfète.
Hein. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Même si elle fait son maximum, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Comme je vous disais, le tourisme... il n'est pas exploité pleinement. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur le tourisme, notamment le tourisme sportif. Je pense que voilà, ça permet aussi de créer du contact. Et il y a des valeurs derrière le sport qui sont importantes, notamment sur la partie près de la Durance. On peut faire beaucoup de choses.
Les Alpes-de-Haute-Provence qui ont annoncé hier qu'elles accueilleront la flamme olympique en 2024 sur le territoire. C'est un coût, 150 000 euros. Oui. Alors, ça, c'est le coût avancé. Il y a toujours des partenariats privés qui sont possibles, un mécénat pour financer tout cela. C'est une bonne, c'est de bon augure pour vous, alors, finalement. Ça va dans la droite ligne de ce que vous défendez aujourd'hui.
Exactement. Donc, tout ça, c'est très positif. Et puis, il y a eu des manifestations, comme vous le précisez, à Vols. C'est notre circonscription. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et déjà, avec ce qui est mis en place... Alors, je vais quand même me permettre une parenthèse. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles au Rassemblement National. On aura évidemment besoin des assises départementales, de la région, de l'État. Voilà, il ne faut pas non plus croire qu'on a une baguette magique, qu'on va tout résoudre très rapidement. Moi, je souhaite vraiment m'inscrire en partenariat avec tous les acteurs possibles des communautés de communes, des communautés d'agglomération de la région. Et je pense qu'on peut être, force de décision. On peut infléchir certaines décisions. Voilà, on a du grain à moudre, on a des idées, et maintenant les faire valoir, ce serait un privilège, évidemment.
Ils ne sont pas faiseurs de miracles, mais ils espèrent un miracle certainement dans les jours qui viennent pour que le Rassemblement National s'impose sur la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Ludovic Régnier, merci d'avoir été avec
nous. C'est moi qui vous remercie.
Ce matin, je rappelle donc que vous êtes suppléant de la candidate Aurélie Abeille sur cette seconde circonscription. Merci.